Le débat du jour, Jean-François Cadet.
L'achat de terres agricoles en Afrique est-elle une nouvelle colonisation? Question posée en cette journée mondiale des luttes paysannes, car depuis plusieurs années déjà, des entreprises publiques ou privées, ou encore des fonds souverains chinois, sud-coréens, russes, saoudiens ou des pays du Golfe s'approprient des millions d'hectares, en particulier en Afrique subsaharienne. Alors à qui profitent ces investissements agricoles? Quelles conséquences pour les paysans et les communautés? Quelles conséquences en matière d'autosuffisance alimentaire et de développement? On en parle avec nos trois invités. En studio à mes côtés, Mathieu Bosch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant au CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement. Vous êtes un spécialiste de ces questions de propriété foncière. En ligne de Dakar, Ousmane Badiane, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur, Ousmane Badiane, directeur pour l'Afrique à l'IFPRI, l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. Et en direct du Mali, dans la région de Ségou, Ibrahima Koulibaly, que je salue également, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous présidez la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali. Vous êtes aussi responsable du ROPA, le réseau des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest. Et vous êtes membre du comité de coordination internationale de l'ONG Via Campesina. Pour vous, Ibrahima Koulibaly, est-ce que ces appropriations massives de terres agricoles constituent une nouvelle forme de colonisation?
Oui, vous savez, c'est la forme qui est extraordinaire. Depuis la crise alimentaire de 2008, on a assisté à cette véritable ruée de ces 10 investisseurs sur les terres agricoles en Afrique et particulièrement singulièrement au Mali, dans la région la plus ayant le plus grand potentiel en productivité, en potentiel productif, qui est le sud du Niger, où un barrage a été construit pendant la colonisation. Donc, en fait, on a une erreur de l'histoire, parce que pendant la colonisation, un titre foncier avait été établi sur environ 1 million d'hectares dans cette localité. Ce titre foncier a été reconduit par l'État malien à l'indépendance, et c'est sur ça que se repose aujourd'hui, et qui s'est reposé en fait le gouvernement défunt de Amadou Toumani Touré pour s'engager dans l'accaparement des terres, la cession massive des terres aux investisseurs étrangers.
Ousmane Badiane, est-ce qu'on peut clairement parler de spoliation des paysans, au-delà du cas malien,
hein? Bon, moi je pense que nous pouvons réduire la situation a une... on peut expliquer la situation d'une façon beaucoup plus simple. On peut dire et reconnaître qu'il y a des risques, mais la situation à laquelle nous faisons face, c'est une abondance de capital au niveau de certains pays étrangers à l'extérieur de l'Afrique qui ont besoin d'investir dans l'agriculture et qui n'ont pas accès à de la terre. Et du côté africain, nous avons accès à la terre, mais des difficultés à trouver des capitaux. Donc, a priori, cela devait être un mariage parfait. Mais les dispositifs à prendre et les modalités d'investissement, c'est là où il y a un problème qui peut être résolu. Donc, on ne peut pas dire a priori qu'automatiquement, il doit y avoir un problème de colonisation, mais je pense qu'il y a des opportunités et des risques qu'il faut comprendre de part et d'autre et pour trouver des modalités d'investissement qui soient gagnant-gagnant pour les deux parties.
Mathieu Bosch, est-ce que vous êtes aussi optimiste qu'Ousmane Badiane ou est-ce que vous considérez effectivement qu'il y a clairement une appropriation illégale et peut-être même moralement répréhensible de ces terres?
En fait, je suis assez d'accord avec Monsieur Badiane, mais je nuancerai un petit peu quand même le propos, c'est-à-dire que oui, évidemment, il y a énormément de risques, il y a des bénéfices qui sont possibles, mais au sein du travail que nous avons commencé avec au sein du CIRAD avec d'autres partenaires, nous avons créé un peu une espèce de base de données qui recense les différentes transactions à grande échelle, et on s'aperçoit qu'en fait le problème central, le concept majeur sur lequel il faut s'appuyer, est celui de la sécurisation foncière. Car on s'aperçoit que les investisseurs vont miser particulièrement et cibler particulièrement les pays qui présentent des faibles gouvernances foncières ou un manque de sécurisation foncière. Et par la même occasion, ils vont aussi viser les terres sur lesquelles les gens qui vont leur attribuer les droits ne sont pas ceux qui vont la cultiver. Donc le risque est vraiment majeur à cet endroit-là, et il y a un aspect, comme vous le disiez, légal, qui est très important et qu'il faut vraiment prendre en compte.
Donc la balle est clairement dans le camp des gouvernements africains. Il faut qu'ils protègent leurs terres et leurs paysans.
La balle est dans leur camp, clairement, parce que les investisseurs ont aussi une part de responsabilité, mais on ne peut pas attendre une responsabilisation automatique des investisseurs.
Oui, chacun défend de toute façon ses intérêts, c'est comme bien ça que sûr. Ça fonctionne. Alors Ibrahima Koulibaly, de quel côté se trouvent les gouvernements africains? Est-ce qu'ils sont du côté des investisseurs ou est-ce qu'ils essaient quand même, tant bien que mal, de défendre les terres et les paysans?
Bon, je vais vous... il y a en 2009, Olivier de Schutter, rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation des Nations Unies, a fait un rapport dans lequel il a énuméré un certain nombre de critères qui pourraient permettre effectivement que ces deals soient gagnants-gagnants. Mais au Mali, je vous dis, il n'y a aucun de ces critères n'a été respecté. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un processus transparent ni participatif, il n'y a pas de libre consentement des communautés, il n'y a pas de protection des droits des communautés, il n'y a pas de priorité au développement local, il n'y a pas de création d'emplois, parce que c'est quelques personnes sont cooptées pour faire des petits boulots journaliers. Il n'y a pas d'étude d'impact environnemental rendue publique. Il n'y a pas d'obligation claire applicable sur les investisseurs en termes de normes de rigueur. Il n'y a pas de garantie de vente des productions soi-disant alimentaires qui pourraient être produites sur le marché local. Il n'y a pas de processus d'évaluation. Donc, pour nous, les gouvernements ont choisi leur camp et vraiment, nous pensons que ce qui se passe, sans un niveau de corruption extraordinaire, ce n'est pas possible. Sans des états déliquescents, ce n'est pas du tout possible.
Oui, ça se passe parce quand même dans une certaine opacité, Mathieu Bosch.
Ça se passe clairement dans une opacité très importante car nous n'avons quasiment pas accès aux contrats qui sont signés entre les investisseurs et les gouvernements. Généralement, nous ne savons pas qui sont les personnes qui représentent les gouvernements pour signer ces contrats. Et les contrats auxquels nous avons pu avoir accès sont vraiment mentionnent vraiment extrêmement peu de choses et extrêmement peu de contreparties pour les investisseurs.
Ousmane Badiane, est-ce qu'on peut trouver un modus vivendi en instaurant un cadre réglementaire qui respecte le paysan, ou est-ce que c'est un peu la lutte contre le pot de terre et entre le pot de terre et le pot de fer?
Bien sûr qu'on peut le faire, mais je vais d'abord faire un petit commentaire sur le besoin de la sécurisation de la terre. Mmh. Il y a une différence fondamentale entre l'Afrique et l'Asie et l'Amérique latine d'autre part. C'est que les pauvres en Afrique ont accès à la terre, ce qui donne aux Africains un levier pour agir et lutter contre la pauvreté parce que terre peut être rendue productive. Donc si les investissements étrangers conduisent à des situations où les paysans n'ont plus accès à la terre, en tout cas pas la propriété de la terre, on aura un problème énorme en Afrique. Et ça, les gouvernements doivent être conscients de cela. Maintenant, c'est pas vraiment au niveau national qu'il faut chercher la solution. C'est au niveau des communautés locales et des groupements d'acteurs au niveau local qu'ils font un travail de renforcement des capacités, de gestion foncière, de négociation. Et bien sûr, pour cela, il faut une réforme éventuelle de l'environnement légal pour permettre aux administrations locales de pouvoir gérer le foncier d'une façon participative, transparente et très claire. Donc, au niveau national, nous avons des tendances qui sont beaucoup plus dangereuses que les investissements étrangers. Mmh. C'est l'apparition de ce que j'appelle les marchés secondaires, des personnalités influentes au niveau national qui s'accaparent de ces terres et qui attendent les investisseurs étrangers. Donc, ce n'est pas nécessairement l'arrivée d'un investisseur étranger qui cause le problème, qui déclenche le problème. Mais c'est la faiblesse du contrôle des communautés locales sur le foncier et la possibilité des élites nationales de s'accaparer de ces terres. Et pour le paysan, il n'y a aucune différence.
Oui, ça c'est intéressant, ce Mathieu Bosch. Vous êtes d'accord avec Ousmane Badiane? C'est au niveau local qu'il faut placer les digues de protection?
Complètement, oui. On s'aperçoit qu'il y a un manque de coordination, généralement un manque de discussion entre le niveau local et le niveau national. Et c'est ce que j'essayais de faire passer quand je disais que généralement les personnes qui donnent accès à la terre ne sont pas celles qui la cultivent et pas celles qui sont sur le terrain pour se rendre compte vraiment de ce qui se passe. On a des exemples, notamment au Mozambique, où le gouvernement mozambicain a mis en place toute une politique de zonage des terres pour savoir quelles étaient les terres disponibles et comment est-ce qu'ils pouvaient les attribuer à des investisseurs. Et on s'est aperçu que ça a mené quand même à des conflits énormes car les populations locales n'étaient pas impliquées. Il y avait un manque de discussion et de coordination. Et je voulais aussi rebondir sur ce qui vient juste d'être dit par Monsieur Badi sur l'impact des élites locales, et c'est vraiment un phénomène très important qui jusque-là a été un petit peu oublié dans l'étude de ce phénomène-là et qui est très important à remettre au centre vraiment de la discussion. Et ça permet aussi de revenir sur la définition même de ce que sont ces acquisitions et ces acquisitions foncières à grande échelle, et de les inscrire soit dans un processus à plus long terme de différenciation ou de concentration foncière, ou alors comme quelque chose de vraiment nouveau, un phénomène vraiment nouveau.
Ibrahima Koulibaly, est-ce que les paysans ne peuvent pas quand même bénéficier de ces achats de terres agricoles par les fonds d'investissement étrangers ou par des puissances étrangères, publiques ou privées ?
Alors, est-ce que vous pouvez répéter la question ?
Est-ce que les paysans, quand même, dans un certain nombre de cas, ne peuvent pas être bénéficiaires de ces achats de terres ?
Bon, en fait, vous savez, hein, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Badiane. En fait, le climat dans lequel cela se passe, c'est ça qui pose tous les problèmes. En réalité, vous savez, si vous prenez un exemple, un pays comme le Mali, le climat des affaires a été complètement remodelé par la Banque mondiale. On a une agence pour la promotion des investissements qui donne des conditions pratiquement scandaleuses pour le pays. C'est-à-dire que le pays ne peut même pas tirer un avantage quelconque de ses investissements. Ça, c'est au niveau global. Maintenant, quand on parle des communautés, les communautés, comment voulez-vous que les communautés puissent pouvoir participer dans un processus alors qu'elles ne sont même pas consultées? C'est souvent quand le bulldozer est là que les communautés savent que les terres ont été cédées.
Oui, c'est le pot de terre contre le pot de fer, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Oui, donc
le combat est inégal.
Dire qu'on peut trouver des systèmes gagnant-gagnant, peut-être, mais pour nous, tout ce que nous on a vu, c'est une extrême violence contre les paysans, c'est une négation de tous leurs droits à la terre. Et pourtant, ce sont des communautés qui sont millénaires, souvent, qui sont là depuis 800 ans pour le cas du Mali. Mais on a nié tous les droits et puis on a donné les terres comme ça. C'est ça qui pose problème. Mais s'il y avait véritablement des véritables processus transparents où les communautés paysannes ont la possibilité de discuter avec les investisseurs, que ce ne soit pas des achats de terres, mais que ce soit véritablement des investisseurs qui veulent investir sur les segments, disons, post-production pour valoriser et se faire de l'argent, peut-être que ça peut marcher.
Alors, Mathieu Bosch, est-ce que tous ces investisseurs sont des prédateurs ou est-ce qu'il y a aussi quand même derrière une volonté de développement, même à la marge, qui pourrait bénéficier aux paysans, voire à l'économie d'un village, d'une région, et on peut imaginer peut-être même du pays tout entier.
En fait, je pense que la difficulté est que la majorité de ces investisseurs sont en fait des investisseurs qui ne sont pas originaires du monde agricole et pas qui n'ont pas connaissance du monde agricole africain en fait.
Et que c'est vraiment de la spéculation.
On peut pas dire spéculation parce qu'il y a une volonté de production, mais avec des objectifs qui sont différents, que ce soit des objectifs de rapatrier la production alimentaire dans leur pays. Mais à ce moment-là, on voit le cas notamment avec les pays du Golfe qui ont mis en place des projets de ce niveau-là, ou alors des projets de production de biocarburants. On a un impact important du développement de ces marchés-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui semble assez compliqué, quoi.
Ousmane Badiane.
Oui, je pense qu'il y a des possibilités. On a des expériences. Prenez le cas de la filière cotonnière en Afrique de l'Ouest. On peut avoir des exemples, peut-être en améliorant cette formule, de partenariat public-privé ou privé-privé, qui ne demande pas que la terre soit acquise par les investisseurs. Et là, je suis d'accord avec notre ami du Mali. Et il y a des possibilités qui permettent des joint ventures entre les producteurs locaux et les investisseurs étrangers. Moi, j'ai une préoccupation. D'une part, on dit que l'investissement étranger est bon pour les autres secteurs de l'économie, industrie et autres, et on veut faire une exception du secteur agricole. Je pense que l'investissement dans le secteur industriel peut être aussi dangereux, mais aussi peut être modelé de façon à avoir un bénéfice pour les économies nationales. Et on le fait. Donc, pour le secteur agricole, il faut être ouvert d'esprit. Il faut qu'il y ait une volonté au niveau national de changer l'environnement légal, de permettre aux communautés locales de pouvoir négocier et de participer à la gestion du patrimoine foncier et d'avoir sur place des processus et des mécanismes qui permettent de canaliser ces investissements. L'Afrique en a besoin. Et ça doit être possible. Mais si on ferme la porte, ces investissements, ce capital ira ailleurs.
Alors, Ibrahima Koulibaly, est-ce que là, effectivement, il n'y a pas une opportunité à saisir, en sachant évidemment que ça suppose un cadre légal suffisamment formalisé?
Oui, bon, ce cadre légal, je pense que c'est aux Africains de pouvoir de les élaborer. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Banque mondiale fait pression pour mettre en place un certain nombre de dispositifs pour attirer plus d'investisseurs. Donc ça fait en sorte qu'il y a une sorte de pression qui accélère, qui engage un processus, disons, de mise en place, disons, de processus totalement incompréhensible pour un État qui se veut respectable. Donc, par exemple, au Mali, vous savez, il y a l'agence de promotion des investissements, il y a le conseil présidentiel de l'investissement, il y a tout un dispositif mis en place par la Banque mondiale, financé par la Banque mondiale, pour que l'État soit absent complètement, l'État ne puisse plus avoir aucun moyen de dire un mot quand les investisseurs viennent. Donc ça veut dire que c'est ça qui crée tous les problèmes. Et les cadres ne sont pas élaborés par les États, c'est fait sous la pression d'idéologues, des gens qui pensent que oui, tout doit être le secteur privé, l'État n'est rien, l'État ne doit pas avoir un mot à dire, les communautés ne sont rien. Donc dans ces conditions, nous on ne peut pas être optimistes.
Mais lorsque Ousmane Badiane nous parle de l'exemple de la filière du coton en Afrique de l'Ouest, est-ce que c'est un modèle qui peut être étendu à ce qui se passe en ce moment sur l'ensemble du continent à propos des achats de terres dont on parle?
Personnellement, moi, je pense que la privatisation du secteur coton a été l'une des plus grandes échecs de notre histoire. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse donner le secteur du coton comme un exemple de réussite.
Mathieu Bosch.
Oui, je voulais revenir juste sur le fait que, là, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de l'agriculture contractuelle. C'est quelque chose qui s'est développé beaucoup depuis déjà de nombreuses années. Et il est clair que l'agriculture africaine a besoin d'investissement. Cependant, je pense que ce sont deux choses différentes que l'agriculture contractuelle et ces mouvements d'acquisition de terres. Donc oui, il serait bien de substituer l'un à l'autre peut-être. Mais cependant, ça implique aussi d'autres questionnements qui sont la capacité de créer des organisations paysannes, comme disait Monsieur Coulibaly, la capacité que ces organisations aient la capacité de négocier avec ces investisseurs. Et cela sort complètement du cadre des acquisitions foncières telles qu'elles sont définies aujourd'hui.
C'est un problème de structure, d'organisation des communautés locales et de la société civile d'une façon générale.
C'est aussi un problème d'implication de la ressource foncière en elle-même dans ces arrangements institutionnels ou pas.
Ces investissements étrangers en matière d'agriculture, Ousmane Badiane, est-ce qu'ils ont à plus long terme une utilité pour le développement? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un moyen, dans une certaine mesure, de compenser la diminution ou l'insuffisance de l'aide publique au développement?
Mais parfaitement. Il n'y a aucun investissement étranger qui soit automatiquement bénéfique. Que ce soit dans le secteur minier, dans le secteur industriel, il faut qu'il y ait des garde-fous. Les investisseurs veulent maximiser leurs profits. Il appartient au pays, aux communautés locales et aux uns et aux autres, aux acteurs au niveau national, de trouver les mécanismes et les dispositifs qu'il faut. Je suis d'accord avec notre ami Koulibaly qu'il y a des difficultés et des faiblesses. Je ne connais pas très bien le système malien. Mais c'est une chose de dire qu'il y a des problèmes, et c'est une autre chose de fermer la porte. Donc, moi, je milite pour une approche pragmatique qui consiste à dire nous avons besoin de ces investissements-là, mais sur des bases gagnant-gagnant, et qu'on puisse définir cela ensemble. Ce n'est pas seulement l'Afrique qui a besoin de ces investissements. Ceux qui investissent ont besoin également de l'accès des terres. Donc, ce n'est pas qu'ils vont taper à la porte et s'en aller si on ne répond pas. Ils ont besoin, ils ont intérêt à trouver un terrain d'entente.
On peut trouver un terrain d'entente, Ibrahima Koulibaly?
Bon, d'abord, je pense que si on réduit le débat à renforcer les capacités des organisations, de la société civile, des organisations paysannes, des acteurs locaux, je pense que le débat va être très, très faussé parce que les communautés sont souvent bien organisées, sont en capacité de négocier si le processus est transparent, s'il y a une ouverture, s'il y a espace pour discuter. C'est-à-dire, c'est ça qui n'existe pas. Donc, il ne faut pas déplacer le problème. Les États ne sont pas présents, les États ne font rien pour préserver les droits, non seulement des communautés, mais encore moins, c'est que même la rentrée fiscale, parce que souvent, c'est des exonérations sur 30 ans qui sont accordées à ces investisseurs. 30 ans, vous imaginez, il y a des baux. C'est vraiment scandaleux si les gens sont au courant de ce qui se passe. Donc, pourquoi un État va faire des choses comme ça? Pour nous, c'est une question. Donc, c'est les États qui doivent faire le premier nettoyage, leur travail. Ensuite, maintenant, s'il y a possibilité, les communautés vont se renforcer pour négocier si les investisseurs viennent. Mais ça n'existe pas. Je mets quiconque au défi de montrer un exemple réussi de ce genre.
Alors, Mathieu Bosch.
Dans les annales, voilà.
Mathieu Bosch. Alors, est-ce qu'on peut donner réellement un espoir aux paysans que défend Ibrahima Koulibaly? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Ousmane Badiane? On peut réellement trouver aujourd'hui un terrain d'entente ou est-ce que finalement ce sera quand même très 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 compliqué?
Jour d'aujourd'hui, ça me paraît assez compliqué dans les dispositifs légaux, institutionnels qui sont et de la situation actuelle telle qu'elle est aujourd'hui. Et je pense que une des voies sur lesquelles il faut y aller, en tout cas, et c'est peut-être très simple de dire ça, mais c'est en tout cas augmenter la transparence autour de ces questions-là et vraiment qu'on puisse avoir vraiment une connaissance vraiment de tout ce qui se passe au niveau public, de ces discussions, de ces négociations, pour vraiment impliquer l'ensemble de la société civile et faire que ces investissements soient bénéfiques pour tout le monde.
Merci beaucoup à tous les trois, Mathieu Bosch, doctorant au CIRAD, Ousmane Badiane, directeur pour l'Afrique à l'IFPRI, Ibrahima Koulibaly, président de la coordination nationale des organisations paysannes du Mali.